Cube Radio. Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement.
1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller.
Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société pour vous offrir la meilleure représentation radio.
Sophie Durocher.
Tout un spectacle radiophonique.
Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien parce que je viens de visionner un documentaire absolument trépidant. Oubliez les fictions, oubliez les séries télé, oubliez les histoires inventées des fois dans la vie. Il y a des histoires vraiment qui dépassent l'imagination. C'est le cas de ce documentaire donc que j'ai visionné, qui s'intitule L'appartement 5 et qui est diffusé, qui est disponible dès maintenant sur Crave. Et c'est un documentaire qui met en vedette mon amie et ancienne collègue Marie-Christine Bergeron, journaliste et chef d'antenne. Bonjour Marie-Christine.
Bonjour Sophie.
Écoute, je sais que tout ce que tu touches, c'est rempli de professionnalisme et de rigueur. Je suis tombée en bas de ma chaise en visionnant les quatre épisodes de la série L'appartement 5, parce que ça raconte l'histoire d'une dame, Patricia Ferguson, qui, il y a plusieurs années de ça, a complètement disparu de la carte. On était en 1996. Elle s'est levée à un moment donné. Elle laissait dans un appartement son enfant, sa fille qui avait un an, et on ne l'a plus jamais revue. Comment tu as commencé à t'intéresser à Patricia Ferguson?
En fait, cette histoire-là est arrivée dans ma vie quelques mois après mon départ de TVA. J'étais en pause professionnelle à ce moment-là, puis je faisais du bénévolat pour l'organisme Meurtres et disparitions irrésolues du Québec. Tu sais, Sophie, j'ai toujours été passionnée par les histoires, soit de meurtres non résolus, de disparitions, parce que je me dis, ça doit tellement être épouvantable de vivre au quotidien en ne sachant pas ce qui est arrivé à un proche, à un être cher. Donc, j'avais décidé de donner du temps un petit peu à cet organisme. C'est des gens qui sont bénévoles, qui travaillent avec des familles. Et c'est comme ça que je suis arrivée en contact avec Marie Saint-Germain, détective privée bénévole. Je tiens à le rappeler parce que ces gens-là font ça juste parce qu'ils ont à cœur donc, d'aider les familles. Donc, Marie est arrivée avec cette histoire-là de Patricia Ferguson. Au début, je me disais, mais mon Dieu, ça se peut pas, Marie. Il y a quelque chose qui cloche certainement dans cette histoire-là. C'est comme trop gros pour être vrai. Tu sais, dans ton introduction, tu disais, des fois, il y a des histoires qui dépassent la réalité. Ben, dans ce cas-ci, honnêtement, je n'y croyais pas et j'ai encore pratiquement de la misère à y croire. Chaque fois que je regarde encore les épisodes, je me dis, c'est quand même fou pareil. Donc, c'est comme ça un peu que je suis arrivée à m'intéresser à la disparition de Patricia Ferguson. C'est grâce aux informations d'abord qui m'ont été amenées par Marie Saint-Germain, la détective privée.
OK. Alors déjà, tu as juste besoin de dire les deux mots détective privée, puis déjà, tout le monde est suspendu à tes lèvres parce qu'on a l'impression, je sais pas moi, de regarder vraiment une série américaine. Puis en plus, le personnage de cette femme-là, Marie Saint-Germain, qui pose des bonnes questions, qui fait de la recherche, qui va au palais de justice, qui fouille dans des dossiers, qui fait un travail extrêmement semblable à ce que toi, t'as fait pendant des années à GIE, que t'as fait à TVA. Donc, le travail d'un journaliste d'enquête. Donc, quand on jumelle quelqu'un qui est détective privé bénévole peut-être, et avec quelqu'un qui a ton bagage à toi, ton expérience comme journaliste d'enquête, on ne peut que découvrir des choses. Alors, on va écouter un petit extrait de la bande-annonce qui nous donne quand même une bonne idée, en partie, de ce qu'on va voir dans l'appartement 5.
C'est une fille de mon coin. Ça avait été médiatisé, je le saurais.
Comment ça se fait qu'on n'en a jamais entendu parler?
Quand je vois la fiche descriptive du SPVM, je note qu'il y a une enfant qui a été abandonnée. Elle doit se demander qu'est-ce qui est arrivé à ma mère.
À l'âge de 11-12 mois, ma mère a disparu.
Le 6 juin 96, ça cogne à la porte. Le voisin demande à Patricia si elle veut aller prendre une bière. On n'a jamais eu de nouvelles.
Écoute, juste ça, là, c'est 20 secondes. Alors, imaginez 4 heures. On est vraiment suspendu à tes lèvres. Je veux juste revenir sur quelque chose qu'on a entendu dans la petite bande-annonce. On n'en avait jamais entendu parler. Comment on explique qu'en 1996, cette femme-là disparaît, qu'elle laisse derrière elle un enfant qui a un an et que ça n'ait pas fait la première page des journaux ou qu'il n'y ait pas Sophie, d'écho médiatique.
Je peux même pas te l'expliquer encore. Honnêtement, je ne comprends pas comment ça se fait. On n'est pas en 1950, là, c'est en 96. C'est pas si vieux que ça comme nouvelle. Et j'ai tellement cherché, Sophie, d'articles de journaux. J'ai cherché savoir s'il n'y avait pas des tu sais, il y a eu plein d'émissions de Claude Poirier, de Jean-François Guérin, il y a eu plein d'émissions sur des disparitions mystérieuses, mais jamais on a entendu parler de l'histoire de Patricia Ferguson. Et au fil de mon enquête, ce que j'en suis venue à comprendre, c'est que peut-être que la famille n'a jamais vraiment poussé, même la famille l'avoue, regrettait un petit peu de ne pas avoir pris ça dès le départ au sérieux. Parce que Patricia était sur le parquet quand elle avait 22-23 ans. Donc, eux, ils se sont dit au départ, elle est partie avec des gens qu'on connaît pas, elle va revenir. Et là, tu te dis ça pendant quelques semaines, quelques mois, et bien les années passent, et puis elle n'est jamais revenue. Sa famille n'a jamais pensé que Patricia pouvait peut-être avoir été victime d'un crime.
En grande partie parce que on ne disposait pas à l'époque, en 1996, d'informations cruciales sur quelqu'un qui habitait l'appartement voisin, l'appartement 5, d'où le titre de ton documentaire. Donc, là, je veux juste faire attention parce que je veux à la fois donner aux gens envie aux gens qui nous écoutent de regarder le documentaire et en même temps, je veux pas non plus qu'on révèle des éléments qu'on retrouve parce qu'il y a une sorte de d'épiphanie rendue au quatrième épisode. Mais ce qu'on peut dire quand même, c'est qu'on en apprend des choses sur le voisin, donc qui habitait à l'appartement 5 et que c'est quelqu'un qui a un lourd passé criminel. Donc, à l'époque, si ça avait été su, bien sûr que la police s'y serait intéressée.
Je présume, Sophie.
Ben, on espère.
À la base, je me dis, à partir du moment où une femme quitte, en laissant son enfant à ses amis, puis en disant pas, je quitte, je vous la laisse, occupez-vous-en, je suis pas capable d'assumer mon rôle de mère. À partir de ce moment-là, il y a un drapeau rouge qui, pour moi, aurait dû s'allumer rapidement. À la limite d'aller voir chez les voisins, voir si quelqu'un a vu Patricia Ferguson, le SPVM me dit qu'il y a un minimum d'enquête qui a été fait. Bon, j'espère. J'espère qu'il y a un minimum de choses qui a été fait, mais visiblement, ça n'a pas été suffisant parce que il nous a suffi, Marie et moi, que de quelques coups de fil pour être sur la piste de cet homme-là et de se rendre compte du passé judiciaire. Cet homme-là, Sophie, c'est un délinquant dangereux.
Oui.
Des délinquants dangereux, il y en a 100 au Québec. Il fait partie des 100 criminels les plus dangereux. Donc, c'est un multi-récidiviste en matière d'agression sexuelle. Et moi, ce que je me suis dit dès le départ, et c'est ce que j'ai toujours dit à Sabrina Ferguson,
la fille
de Patricia, qu'on a retrouvée, évidemment, pour cette série-là, j'ai toujours dit, Sabrina, je ne peux pas, moi, condamner quelqu'un. Je ne peux pas accuser quelqu'un. Mais ce que je peux faire, c'est faire en sorte que les policiers fassent leur boulot et aillent rencontrer l'homme avec qui elle a passé ta dernière soirée. Pour moi, c'était ça qui était important. Et aujourd'hui, je peux vous dire mission accomplie, c'est que le SPVM a réactivé le dossier grâce aux informations qu'on leur a fournies.
Bon, alors ça, quand on est journaliste, c'est la consécration. C'est-à-dire que quand on fouille une histoire de ce type-là, meurtre irrésolu, ou même, dans ce cas-là, simplement disparition mystérieuse, quand on se lance dans une enquête comme ça, puis que le SPVM réactive une enquête basée sur les informations qu'on est allé chercher, ça, c'est comme une étoile dans ton cahier de journaliste, là. C'est un 10 sur 10 dans ton bulletin, là.
Mais je te dirais que, humainement parlant, pour moi, c'est l'enquête la plus gratifiante que j'ai faite. Parce que quand j'ai mis le pied là-dedans, au départ, je me disais, mon Dieu, dans quoi je m'embarque? Est-ce que, est-ce, est-ce qu'on va réussir? Est-ce que ça va fonctionner? J'avais peur de donner de faux espoirs à Sabrina parce que, tu sais, à un moment donné, quand on rencontre des gens, quand on fait des entrevues, quand on leur parle, on finit par s'attacher.
Oui.
Moi, je suis une mère, hein, puis je finis par me dire, mais pauvre petite, Sabrina a vécu toute sa vie, a grandi avec le sentiment d'abandon. Quand elle se met à pleurer puis qu'elle me dit, Marie, je pensais que ma mère m'aimait pas puis qu'elle m'a abandonnée puis que je valais même pas l'amour de ma mère. Écoute-moi ça, honnêtement.
Ça t'a fait fondre.
Oui. Ben oui, puis ça va pas déranger de mettre des heures et des heures sur cette enquête-là, seulement pour apporter des réponses à Sabrina. Je me dis, oui, journalistiquement parlant, c'est gratifiant, mais humainement, c'est exceptionnel de se faire dire merci pour ce que tu as fait parce que tu m'as amené une forme de réponse, une forme d'apaisement. Puis aujourd'hui, je me dis que peut-être que ma mère m'aimait dans le fond.
Ouais. Alors c'est ça, c'est qu'on suit en parallèle la quête de Sabrina qui veut savoir ce qui est arrivé à sa maman, mm-hmm. mais qui veut aussi découvrir qui est son père parce qu'elle est née de père mm-hmm. inconnu. Donc il y a parallèlement à cette enquête-là, cette enquête sur qu'est-ce qui est arrivé à Patricia. Et moi, il y a une chose que je trouve absolument fascinante, c'est que Marie de Saint-Germain, donc cette détective privée bénévole, et toi, journaliste d'enquête, vous posez des questions et vous, c'est comme une pelote de laine et puis on tire sur le fil et on ne sait pas où ça va nous amener et au fur et à mesure oui. vous découvrez des choses et on ne peut pas s'empêcher mm-hmm. de se dire si à l'époque il y avait eu juste au poste 55 un policier ou une policière peut-être un petit peu plus curieuse mm-hmm. ou curieux que oui. les autres qui avait tiré oui. sur le fil, ben on serait pas rendu en 2022 à devoir faire enquête. On l'aurait trouvé à ce moment-là. Et peut-être que ce monsieur-là n'aurait peut-être pas fait d'autres victimes après. Il y a comme un sentiment de frustration comme citoyen de se dire, est-ce qu'on est vraiment bien protégé? Puis en même temps, Marie-Christine, est-ce qu'on peut se dire aussi que la police est débordée? Il y a 10 personnes oui. par jour qui disparaissent oui. à Montréal.
Oui, mais ce qui me conforte, moi, dans tout ça, c'est que je me dis, bon, en 96, pour moi, je vais pas porter de jugement, là, mais pour moi, ils l'ont échappé en 1996. Ils auraient dû creuser davantage. Mais les policiers d'aujourd'hui, oui. quand je leur ai donné les informations parce que pour moi, oui, c'est important parce qu'on fait une série documentaire, mais ce qui est à la base important, c'est que l'enquête.
Bien sûr.
Avance.
On est d'accord.
Donc moi, dès que j'ai eu ces informations-là, je les ai transmises au SPVM et une heure plus tard, j'avais un coup de fil des crimes majeurs et on me demandait d'aller au poste. Marie-Christine, on veut te rencontrer. Dis-nous ce que t'as parce que si ça s'avère, si les informations que t'as, ben, on a vraiment besoin d'aller plus loin. Donc, ça a été très, très rapide et je pense qu'aujourd'hui, si Patricia Ferguson disparaissait en 2022, ça serait absolument pas le même traitement qu'en 96 et c'est ça qui me rassure aujourd'hui. On peut pas refaire le passé, mais je me dis que à partir du moment où j'ai transmis l'information puis le SPVM m'a pris ça au sérieux, je trouve ça aussi important de le mentionner.
Oui. Ce qui est très important et je trouve qui ressort dans le documentaire en quatre parties, c'est toute l'humanité que ça prend pour faire le travail que tu fais et que font tous mes collègues, hommes et femmes qui sont journalistes d'enquête. C'est que quand on va, par exemple, quand tu vas rencontrer quelqu'un qui a été victime d'une agression sexuelle, qui a été séquestré, mm-hmm. ça prend un doigté, ça prend de l'humanité, ça prend de la bienveillance pour amener ces gens-là à parler et quand ils parlent pour arriver à les faire parce qu'on veut qu'ils en disent le maximum, puis en même temps il faut respecter le fait qu'on leur fait revivre un traumatisme important.
Complètement.
Je trouve que dans ce documentaire-là, on voit l'importance du travail journalistique, puis je suis contente parce que les journalistes, au cours des derniers mois, peut-être pendant la pandémie, on a un peu varlopé leur réputation.
Oui,
puis
on l'a pas eu facile.
On l'a pas eu facile, puis je trouve que on n'a pas assez parlé à quel point le journalisme d'enquête est important et à quel point ça produit des résultats.
Mm-hmm. Ben, en fait, moi, je me dis toujours, je le fais avec mon cœur, puis je le fais avec toujours en tête. J'essaie de me mettre dans la peau de ces personnes-là. Puis quand la personne me dit, écoute Marie, je peux pas le faire on cam, je peux pas mettre mon visage à la télé parce que j'ai peur. Je ne pousse jamais parce que je me dis, hey, moi, si j'avais vécu ça, là, si j'avais peur encore de cet homme-là, est-ce que j'aurais le goût moi de mettre mon visage à la télé? Est-ce que j'aurais le goût de raconter ça? Donc j'essaie de toujours de trouver une façon que ce soit en reportage ou en documentaire, de pouvoir livrer ces témoignages-là, mais avec les moyens qu'on a en télé, là, avec les contre-jours, avec des filtres, pour que, tu sais, dans le fond, entre toi puis moi, c'est pas nécessaire de voir toujours le visage des personnes, c'est le témoignage qui compte.
Absolument.
Et dans cette série-là, il y a une des victimes de l'homme en question qui hésitait, puis à un moment donné, je lui ai dit, écoute, est-ce que c'est possible seulement que tu me racontes ton histoire par téléphone? Et elle m'a dit oui. Mais je trouve que c'est suffisant. On n'a pas besoin nécessairement toujours d'entrer dans le faut voir, faut juste de l'entendre parfois, ça peut suffire. Puis je pense que c'est dans ce respect-là. Je veux pas toujours aller au-delà de ce que les personnes veulent me donner. Puis je pense que ce respect-là transparaît aussi à l'écran. En tout cas,
totalement. Oui, ben tout à fait. Je te le confirme à 150%. Ce qui est quand même frappant, c'est que il y a trois personnes que tu as réussi avec l'aide de Maryse aussi que tu as réussi à retracer. Et ces personnes-là disent même 35 ans après les faits. Je veux pas être identifiée, je veux pas qu'on puisse me reconnaître, je veux pas que cet homme-là puisse savoir où j'habite ou quoi que ce soit, parce que il m'avait dit à l'époque, si jamais tu parles, je te tue, et 35 ans plus tard, elle a encore peur. Et je trouve que c'est important aussi que les gens sachent que quand quelqu'un est victime d'une agression sexuelle, séquestrée, etc., c'est quelque chose que les victimes elles vivent avec ça pour le restant de leur jour. Cette peur-là, elle ne les quitte jamais, comme si l'agression avait eu lieu la veille.
Oui, mais complètement. Puis, tu sais, des fois, quand on lit des documents de cour, quand on regarde des témoignages qui sont cités à la cour, on se dit, mon Dieu, c'est épouvantable. Mais quand j'arrive devant ces personnes-là et qu'elles me le racontent, je sens la terreur dans leur voix. Je sens... Honnêtement, j'en sors toujours hautement traumatisée parce que ces femmes-là, tu le dis, ont vécu l'enfer et de l'entendre avec cette anxiété encore là, puis de les faire revivre, je trouve ça abominable. J'en ai encore la chair de poule. Puis ils nous apprennent toujours des détails un peu supplémentaires qui sont pas toujours dans les documents, qui sont pas nécessairement dans les articles de journaux de l'époque. Notamment, j'ai la victime de 1987 qui me raconte que l'homme en question avait une corde cachée en dessous du lit, donc c'était prémédité. Donc moi, honnêtement, c'était écrit nulle part, cette histoire-là. Donc quand elle me raconte ça, j'en ai eu le souffle coupé. C'était tellement prémédité qu'avant d'aller chercher sa victime sur le bord de la rue, il avait une corde cachée en dessous de son lit pour l'attacher. Non, c'est abominable. Bref, c'est clair que ces femmes-là ont vécu l'enfer. Puis moi, dans le fond, c'est important pour moi de retracer les victimes de l'homme qui habitait dans l'appartement 5 pour savoir à qui j'allais avoir affaire. Ouais. Parce que tu ne te présentes pas chez quelqu'un en sachant pas qui est cet homme-là. Donc, j'avais besoin de savoir qu'est-ce qu'il avait fait vivre à d'autres femmes, qui il était, qu'est-ce que les psychiatres ont déterminé dans ses évaluations, parce qu'il a été évalué par la cour. Donc, au fil des épisodes, c'est ce qu'on découvre. C'est notre enquête, donc, sur cet homme-là, pour savoir qui est-il, qu'est-ce qu'il a fait subir à des femmes, et qu'est-ce qu'il a à dire sur cette dernière soirée avec Patricia Ferguson.
Et on vendra pas le punch. Va falloir se rendre jusqu'au quatrième épisode de cette excellente série documentaire, l'appartement 5. Et, écoute, vu que le SPVM a réouvert l'enquête, il est pas exclu du tout qu'il y ait un cinquième épisode à appartement 5 où on va justement peut-être avoir un dénouement. En tout cas, tu nous tiendras au courant, bien sûr, quand ce sera le cas. Marie-Christine, je m'ennuie de toi. Alors,
mais tu peux m'écouter au fil ce soir à 17h.
Voilà, exactement, c'est dit. Merci beaucoup, ma belle Marie-Christine
merci,
Bergeron.
Merci, Sophie, c'est adorable. Merci, bye-bye.
Et donc, cette série documentaire, donc en quatre parties, l'appartement 5, vraiment à voir pour rendre hommage aussi à cette femme qui a disparu, Patricia Ferguson, et qui n'a pas le droit à une enquête vraiment en bonne et due forme. Donc, vous allez pouvoir voir ça sur Crave.
Qu'elle soit en avant ou en arrière-scène, Sophie Durocher reste toujours Sophie Durocher. Culture, tendance et société. Steve Fortin.
Si vous payez le cognac, peut-être que Steve E. Fortin va nous raconter sa soirée toute récente où il est allé voir en spectacle nul autre que Plume la Traverse. Pourquoi, dans le cadre d'une chronique d'opinion, tu voulais nous parler du spectacle de Plume? Serait-ce que Plume a des opinions qu'il a envie de partager avec nous?
Ben oui, en fait, et je me suis même posé la question dès le départ. Donc, tu sais, je me disais, est-ce que Plume c'est encore pertinent? Est-ce que je vais aller voir Plume comme je l'avais déjà vu à l'époque, par exemple? Tu sais, je veux dire, moi, je me souviens, là, on le voit et je le voyais dans les années fin des années 80, début des années 90. Puis, il faut comprendre qu'il y a vraiment, en fait, il y a deux Plumes la Traverse. Puis moi, je me suis présenté là hier, il était à Gatineau, c'était son dernier, le dernier spectacle de sa tournée actuelle. Puis il faut quand même le dire, c'était un peu une remise pour bien des gens qui étaient là, parce que il a rappelé que ça s'était terminé abruptement dans son cas,
ouais.
11 mars 2020.
C'est fou.
Dernier show là, avant que la pandémie frappe, il était là. Donc là, il revient là, puis je me demandais quelle Plume j'étais pour voir.
Bon, pourquoi tu dis qu'il y en a deux? Décris-nous les deux Plumes.
Oui, il y a le Plume de Bob Épine, tu sais, là, il y a le Plume
qu'on
a connu longtemps. Oui, exactement. Mais il y a aussi le Plume de texte plus fin, oui. Par exemple, dans son album Les Chansons Nouvelles, Les Patineuses. Puis, quand je suis arrivé là-bas hier, je savais pas trop à quoi m'en tenir, mais je vais te dire, bien franchement, j'espérais vraiment qu'on voit le second. Parce que le Plume de Bob Épine, tout ça, je l'ai vu, j'ai fait ça. Et à ma grande surprise, l'homme qui s'est présenté hier avec ses comparses de toujours, là, Jean-Claude Marsan, Grégoire aussi Morancy, qui était là, ce qu'on a vu hier, c'était ça. C'était le deuxième Plume. C'était celui des patineuses. C'était celui qui, à un moment donné, dans le cadre de son spectacle, faut bien que ça arrive, là, OK, c'était plein à craquer. Puis comme de raison, t'es dans un show de Plume, fait que t'as 3-4 gueulards qui arrêtent pas puis qui vont essayer de crier, puis pourtant, il n'y a pas de percussion là. Il y a deux guitares puis une basse, fait que tu sais, mais non, il y avait ça hier, c'était vraiment chalant, puis à un moment donné, il les a interpellés directement de la scène. D'ailleurs, OK, ça va faire. Parce que ce que j'ai aimé du spectacle de Plume hier, c'est justement cette finesse-là. C'est les chansons à texte. C'est Plume qui prend à un moment donné 2 minutes, puis plutôt que de parler d'actualité et tout ça, il nous parle de l'importance des textes dans la chanson, l'importance de prendre le temps dans la musique, d'écouter les textes et de les laisser se déposer sur les mélodies. Et c'est ce qu'il fait de mieux. Et j'étais donc content que ce soit ça hier qui nous a été servi, parce que ce Plume-là, moi, je ne l'avais jamais vraiment vu comme ça en show. Et c'était tout nouveau pour moi. Et c'est pour ça que je trouve vraiment qu'il était pertinent. On a un extrait. On va entendre un extrait d'une chanson que j'ai particulièrement aimée hier et qui pour moi aussi représente un peu l'ancien Plume, mais avec un texte quand même que tout le monde va reconnaître. C'est un extrait de Les Pauvres. On l'écoute.
Les pauvres aiment la chicane. Ils vivent dans des cabanes. Les pauvres font pas école. Les pauvres, c'est pas des grosses balles. Ça mange des semelles de pâte et du beurre de pinot.
Alors, cette chanson-là est très particulière parce que il y a plein de gens qui ne la comprennent pas. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui prennent cette chanson-là parce qu'elle date pas d'hier, là. Ça fait partie du classique du répertoire de Plume la Traverse. Il y a des gens qui la prennent au premier degré et qui pensent qui ne comprennent pas que, en fait, Plume prend tous les clichés et les préjugés, les stéréotypes sur les pauvres pour les retourner à l'envers. Et c'est justement parce qu'il les retourne à l'envers que cette chanson-là est particulièrement poignante. Donc, elle a bien vieilli, cette chanson-là.
Et cette voix, je veux dire, hier, Plume, il était en voix et tout de suite, c'était assuré. Et il y avait donc cette belle séquence-là aussi dans l'agencement des chansons. On a eu ça, et pas longtemps après, justement, on a été servi par Les Patineuses. Les Patineuses, cette chanson-là qui, pour moi, est particulièrement poignante par le texte. Je vous en lis un petit extrait, là. « Étendu parmi les étoiles, foudroyé à 2 minutes de près, quand le vent releva le voile et fit tomber son béret, je me suis perdu dans ses yeux d'ange et pendant un instant heureux, comme lorsque on est amoureux. Ce moment de curieux mélange, ce moment tellement doucereux. C'est aussi ça, Plume. C'est des textes comme celui-là. Puis à ce moment-là, dans le spectacle, c'est là où il a demandé, c'est une chanson qui est particulièrement importante pour moi et tout ça, je vais vous la faire. Et là, tous les gens se calment et puis il entame ça. C'était ça. Finalement, hier, dans ce spectacle-là, il n'y a pas eu de Bob Épine. Il y a eu un tout petit bout de Jonquière qu'on connaît bien, mais à la toute fin du premier set, mais il a changé les mots pour dire pour remercier les gens de Gatineau plutôt que Jonquière. On part à la pause. Puis quand c'était terminé, j'écoutais les gens, tu sais, parce que c'est un beau lobby à Gatineau, à la salle, tout ça. Puis c'était drôle. J'ai entendu quelques personnes qui ont dit « Ouais, mais tu sais, on n'a pas entendu Bob Épine et tout ça. » Mais j'ai vu beaucoup de gens qui sortaient de là et qui se disaient « Mais j'ai entendu des chansons que je connaissais pas ou que je n'avais pas entendues depuis longtemps. » Et moi, j'étais content de ça parce que le setlist a été bâti de façon à ce que quand on est sorti de là, puis le Plume qu'on a vu hier, c'était un artiste qui a mis de l'avant ses textes et qui a mis de l'avant sa capacité aussi de monter, de construire une séquence de chansons pour nous faire réfléchir, et ça a fait tellement du bien. Et pour moi, ça a été vraiment une révélation. C'est pour ça que dans les deux Plumes que je nomme au départ, si on me demande lequel je préfère, finalement, je préfère beaucoup mieux, surtout à ce stade-ci de sa carrière, ce Plume-là qu'on a entendu avec justement les harmonies, puis ben là, on le voit aussi, là, on l'entend. Je veux dire, c'est plus une question entre lui et Jean-Claude Marsan. La communion est totale, son guitariste. Et pour moi, ça a fait du bien d'entendre ça. Je ne sais pas, je pense qu'il est rendu à 75 ans maintenant, Plume, je ne sais pas combien de fois je vais le revoir en show. Mais finalement, j'étais content que ce show-là soit présenté de cette façon-là et que finalement, au bout de ça, ben ce qu'on retiendra, c'est qu'il y a encore une voix superbe, puis il a présenté des textes, souvent, moi, il y a quelques chansons que je n'avais jamais même entendues. Donc, il est allé creuser loin dans son répertoire, puis pour ça, ça valait vraiment le détour. C'est un auteur, c'est un de nos piliers, je trouve, dans la chanson, et là, ce qu'on a mis de l'avant, c'est vraiment ça, c'est le chansonnier, celui des textes.
D'accord. Moi, quand je vais voir un artiste et qu'il a comme un énorme succès et qu'il fait pas l'énorme succès, ça me fâche. Je me rappelle, il y a quelques années de ça, Philippe Delerme était venu à Montréal et il avait pas fait la chanson où il parle de Fanny Ardant et les gens étaient restés dans la salle complètement fâchés. Alors, moi, si j'étais allé voir Plume la Traverse et qu'il avait pas fait Bob Épine, j'aurais été fâchée parce que je connais les paroles par cœur. Sa mère accouche dans la cuisine. Qui ça, Bob Épine? Alors, pour faire plaisir à tous nos auditeurs qui aiment Bob Épine, on va en écouter un petit extrait, puis on va se quitter là-dessus. Merci beaucoup, Steve Fortin.
Salut, bien, à demain.
C'est la coqueluche des grands drives, à Fafureur avec ses bottes. Qui ça? Bob Épine. Bob Épine. Bob Épine.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
Elle est parfois dramatique. D'autres fois, satirique. Mais chose certaine, elle ne joue jamais la comédie.
Sophie Durocher.
C'est tout en anglais.
Sophie Durocher.
C'est toi qui as tiré la sonnette d'alarme.
Le Québécois moyen était...
Guy Nantel.
Quelqu'un qui subissait et qui se disait « Je ferme ma gueule, ben, je ne veux pas perdre ma job. »
La rencontre.
Cet asservissement, cette servitude volontaire.
C'est quelqu'un qui va dire, par exemple, « Moi, je suis allé à l'urgence, là, j'ai attendu 6 heures, OK? »
La rencontre, Nantel, Durocher.
Bonjour Guy Nantel, je dois malheureusement t'annoncer que tu pourras pas tout de suite parler du sujet dont tu voulais me parler parce que il y a une grosse nouvelle extrêmement importante qui vient de sortir et notre collègue à la mise en onde, à la réalisation, Charlie Marchand, vient d'obtenir un document vidéo sonore exclusif, donc on est obligé de passer ça avant de passer à ta chronique. Je suis désolée, on écoute ça tout de suite.
Avec quel débatteur j'ai le plus de plaisir à débattre? Débattrice Sophie Durocher, qui est mon amie, qui est quelqu'un avec qui je parle à tous les jours. Je suis capable de me moquer d'elle, mais je suis capable aussi d'avoir des échanges corsés avec elle. Écoute, c'est le meilleur des deux mondes, l'humour et l'adversité. Sophie, je t'aime.
Attends deux secondes. Guy Nantel, qui est interviewé à la sortie de l'émission Le Monde à l'envers, présenté tous les vendredis à 20h à TVA.
J'étais sous. Il sert de l'alcool sur le plateau.
Ah, c'est ça. OK, ben ça explique tout. Ben alors, je t'aime aussi, Guy. Voilà.
Et débattrice, ça se dit pas en passant. Hein? C'est débattrice.
Ah, ben c'est tellement... Ben regarde, s'ils sont capables de dire autrice, on est bien capable de dire ben, débattrice.
Exactement.
Moi, je m'auto-identifie comme débattrice, j'ai le droit.
On a le droit de tout.
Alors, je te laisse aller avec ta chronique, mon beau
ben
Guy.
Oui,
que
allons
j'aime.
Avec le sujet d'aujourd'hui. Oui. En fait, c'est mon ami Frédéric Bastien. Je dis mon ami parce qu'en fait, c'est plutôt mon collègue du Parti québécois qui était dans la course à la chefferie avec moi. On se voit quand même une fois ou deux par année. On prend une bière ensemble. Donc, tu te souviens, en mars passé, j'avais dénoncé l'université Laval, c'est ça, à Québec, qui. Donc, tu sais, quand il y a des chaires de recherche, ben, ils ont décidé, pas seulement qu'eux, par exemple, mais ça c'était sorti avec l'Université Laval, que les chaires de recherche, maintenant, ben, écoute, pour faire une histoire courte, on donne ça à des hommes blancs. On donne ça à des femmes, à des handicapés, des minorités visibles, des autochtones. Bon, mais pas des hommes blancs. Alors là, il y a une chaire de recherche. Ça a fait tout un tollé, hein, dans le temps.
Oui, tout à fait. C'est toi qui avais soulevé ça. Oui, oui, ben c'était énorme. Là, il y a eu plein de chroniques, plein de réactions, même de la classe politique qui était unanime. Il y avait une seule personne qui avait trouvé que c'était formidable, et c'était Geneviève Peterson. J'ai pas besoin d'en dire plus.
Je t'en parlerai de Geneviève Peterson parce que elle fait partie de justement ce que j'ai à dire aujourd'hui. Donc, il y a une chaire de recherche qui s'ouvre à l'université tout récemment et donc ce fameux Frédéric Bastien, pour ceux qui ne connaissent pas, donc cette chaire de recherche en histoire du Québec et du Canada, ben lui c'est sa spécialité. Alors il dit ben moi ça m'intéresse, je vais appliquer. Et évidemment ben on devine la suite. Il se fait dire non, tu as un pénis puis une peau blanche. Alors, ce sera pas possible pour toi. Donc, lui, ben, il porte, ben, on en fait une blague, mais c'est la réalité, là.
Oui,
c'est carrément ça.
Moi,
qu'on
je ris pas, là. Non. Je ris pas.
Alors, lui, ben, il porte plainte à la Commission des droits de la personne, puis c'est écrit noir sur blanc là qu'il peut pas faire ça. Puis évidemment, c'est interdit de discriminer sur la base du sexe et de évidemment de la couleur de la peau. Donc, il se dit, ben j'ai un cas. Et là, il y a une professeure de l'université en question en sciences politiques, une Souley Tomkinson, je la connais pas. Et puis là, elle s'en va sur Twitter et évidemment, bon, déjà, je te dis au départ, sa description Twitter, elle est uniquement en anglais, elle qui enseigne dans une université francophone, ça te donne une idée un peu du genre de dame à qui on s'adresse. Et puis donc, elle traite littéralement Frédéric Bastien d'homme blanc médiocre qui ne mérite pas d'avoir une chaire.
Oui, attends, il faut compléter aussi, elle dit donc homme blanc médiocre et elle dit qu'il ne mérite pas d'avoir une chaire parce qu'il n'a pas de publication approuvée par ses pairs, P-A-I-R-S. Et c'est important dans l'histoire parce que ben Frédéric, il a fait des publications qui ont été approuvées par ses pairs.
Il donc, en a fait plein, oui.
Voilà.
Mais évidemment, c'est parce que là, il y a eu un tollé, puis elle, elle est toute fâchée, là, parce qu'elle se victimise elle-même, puis elle dit, écoute, je fais l'objet de harcèlement depuis que j'ai envoyé ce tweet-là. Ben oui, Twitter est mal fait de même. Quand tu tiens des propos racistes, sexistes à l'endroit d'une personne qui, techniquement, a raison, parce que qu'on l'aime ou qu'on n'aime pas Frédéric Bastien, c'est interdit de faire de la discrimination sur la base de la couleur de la peau et du sexe, et ça, c'est la loi qui est comme ça, et puis c'est légitime pour lui de porter ça justement devant les tribunaux.
Ben oui.
Et puis là, ben écoute, elle, ce qu'elle dit, c'est je reçois des bêtises, c'est épouvantable. Je me dis, quelle être pathétique qui enseigne, à la limite, même qui endoctrine à notre jeunesse dans les universités. T'sais. Puis là, en plus, elle ose écrire devant toutes les bêtises qu'elle reçoit. Elle dit, je viens de réaliser que plusieurs Québécois ne connaissent pas l'expression anglophone « white male mediocrity ». comme si ça allait légitimer quelque chose, comme si on allait se dire, ah, OK, c'est une expression qui existe aux États-Unis, le white male mediocre. Tu sais, c'est un peu comme si je te traite de grosse idiote qui pue, puis là, toi, tu te fâches, puis là, les gens, ils disent, c'était bien dégueulasse. Non, je vous connaissais pas l'expression fat stinky idiot woman. C'est connu, cela, là. Mais c'est hallucinant de c'est voir comment c'est maintenant, on se gêne plus pour carrément insulter les hommes blancs sur la base de leur sexe et de leur couleur de peau.
Oui, non, mais c'est absolument hallucinant. Et moi, quand je regarde ça, je me dis, mais cette dame-là, elle enseigne à l'université et elle n'a aucune gêne à aller sur les médias sociaux et à varloper la réputation d'un collègue dans le sens général du terme, là, dans le sens quelqu'un qui est aussi un universitaire ou qui est quelqu'un qui est en tout cas dans les institutions d'enseignement puisqu'il enseigne l'histoire au Collège Dawson. Donc, cette espèce de double standard, de deux poids, deux mesures, dans la mesure où jamais elle n'aurait tenu ces propos-là sur une femme noire. Elle n'aurait pas dit une femme noire médiocre. C'est évident qu'elle n'aurait pas rejeté comme ça du revers de la main une femme noire ou de toute autre race. Et c'est comment se fait-il que c'est acceptable à ses yeux d'essayer d'attaquer Frédéric juste sur la base de ses compétences au lieu de s'adresser de vraiment répondre sur le propos même qui est est-ce que vous êtes d'accord Madame Tomkinson avec le fait qu'il y a des chaires de recherche qui soient réservées à des groupes minoritaires. Peut-être que vous êtes d'accord, puis que vous trouvez, en effet, parce que c'est une demande qui émane du gouvernement, que vous trouvez ça légitime, mais argumenter, c'est comme...
Ben non, mais c'est ça, c'est Castor, t'as plus besoin d'argumenter. Non. Quand, si t'es un homme blanc qui s'oppose à ce genre de rhétorique-là, automatiquement, tu deviens un raciste, un sexiste, un homophobe. On l'a vu avec la critique du devoir, ça a été la même chose pour moi dans mon spectacle. T'sais, à partir du moment où tu t'attaques à des chapelles là, sacrées, ben là, évidemment, tu te fais cracher dessus. Puis je te parlais de Geneviève Peterson parce que, à nouveau, donc, ils font des débats hein, le soir, eux autres, puis ce soir-là, suivant cette publication, ben ils décident de faire un débat sur cette question-là.
Ah oui?
Ouais. OK. Ils ont fait un débat, ça dure 21 minutes, là, puis je l'ai écouté au grand complet. Donc, ils font tout l'historique, hein, et pas un mot sur le tweet de cette dame-là.
Hein?
Pas un mot. Le débat tourne exclusivement autour de Guy Nantel et Frédéric Bastien. Est-ce qu'ils sont trop fragiles? Évidemment, en tant que représentant d'hommes blancs. Et Geneviève Peterson qui dit, et je te cite, parce qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui parle du problème de représentativité dans toute cette question-là avec les universités, les chaires de recherche, et elle dit, je te cite, le problème, là, parce que le gars, il dit, le problème, là, dans tout ça, puis elle coupe, elle dit, le problème, là, c'est Guy Nantel qui a fait un maudit tweet populiste. Et là, affairé d'elle par quelques personnes sur le plateau, puis là, elle justifie, elle fait, non, mais là, je dis ce que je pense, j'ai le droit de dire ce que... Tu sais, on est en train de débattre d'un enjeu important dans la société.
Mais oui.
Et ça devient le messager, ça devient celui qui porte plainte qui devient la personne responsable du problème. Comme si j'étais... Écoute, tu l'as dit tantôt, tous les partis politiques à l'Assemblée nationale, ça a été unanime. Même Québec solidaire m'a donné raison dans cette histoire-là, donc par conséquent, donne aussi raison à Frédéric Bastien de porter plainte en ce moment. Puis t'as cette fille-là qui se prend pour, je sais pas, une espèce de sociologue du Dolorama qui décide que le problème dans toute cette question-là, c'est Guy Nantel. Si Guy Nantel avait rien dit, là, il n'y en avait pas de problème dans la société. C'est fort.
Attends, c'est parce que la mâchoire m'est pas encore retombée. Là, j'avais arrêté à sociologue du Dolorama.
Ben non, mais c'est parce que ça ressemble à ça comme niveau de réflexion. Attends,
donc, ramenons ça sur des faits sans lancer de sans ridiculiser. C'est que revenons au fait, c'est que à l'époque, donc justement où toi tu avais dénoncé ça, comme tu le dis, les partis politiques et Geneviève avait dit, elle, son opinion était que après des siècles d'injustice, c'était normal qu'il y ait un retour de balancier, puis que les blancs privilégiés qui voulaient perdre étaient pas prêts à perdre leurs privilèges. Ce à quoi, quand j'avais entendu et lu Geneviève à l'époque, je m'étais dit, si ça te dérange tant que ça, ma belle Geneviève, si ton privilège blanc, tu trouves ça tellement épouvantable quand c'est Guy Nantel ou quand c'est quelqu'un d'autre, lâche ta job. Lâche ta job, ma belle Geneviève, puis donne-la à une personne handicapée, noire, transgenre. Il y en a plein qui vont vouloir avoir ton boulot. Toi, ah, ben non, tout d'un coup, là, ça marchait pas.
Elle a parlé de ça hier, justement, de dire, ben non, mais là, tu sais, je laisserai quand même pas mon poste, là, on laissera pas notre poste personne, mais on a le droit de défendre des principes. Ben, je suis désolé, mais si tu trouves ça si épouvantable, moi, je pense exactement la même chose que toi, c'est-à-dire que, tu sais, c'est parce que ce qu'ils disent, dans le fond, ces gens-là, c'est que les personnes qui naissent aujourd'hui avec la peau blanche et un pénis, ben, ces personnes-là doivent payer
ouais,
le prix d'injustice qui ont supposément été commis par le passé, parce que ça, c'est une autre affaire, là. Il faudra en faire la démonstration. Pas parce que, tu sais, évidemment, il y avait plus d'hommes puis il y avait plus de blancs. Bon, c'est sûr, on s'obstinera pas là-dessus, mais c'était une autre société, c'est une autre époque. Alors là, on regarde ces faits-là avec les yeux de 2022. Ben oui, on peut le faire avec plein d'autres affaires, mais c'est quand même épouvantable de dire on va faire payer les gars blancs d'aujourd'hui à cause de quelque chose qui se serait passé par le passé, alors que le but de tout ça, c'est d'éviter la discrimination dans
voilà.
la société.
Alors, à partir du moment où tu dis que la discrimination, c'est quelque chose qui doit être dénoncé, tu ne crées pas toi-même une discrimination, parce qu'à sa face même, tu dis la discrimination n'est pas une bonne chose. Et en effet, moi, je pose la question, pourquoi Frédéric Bastien ne pourrait pas postuler pour une chaire de recherche ou pour un poste de professeur, alors qu'il est bardé de diplômes, qu'il a de nombreuses publications, et pourquoi on lui dirait simplement « tu ne peux pas » parce que ces postes-là sont réservés pour des personnes qui ne sont pas blanches et qui ne sont pas des hommes. Et on s'intéresse à ça dans le domaine universitaire, Guy, mais il faut en parler. Moi, ça fait plusieurs articles que j'écris dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec. C'est la même chose dans le domaine du cinéma, de la télé. Écoute, Téléfilm nous dit que à partir de maintenant, ils vont les embaucher, il faut que ce soit des personnes racisées. Et il faut même les producteurs, les scénaristes, il faut que ce soit des personnes racisées. Qu'est-ce que ça a à voir avec le cinéma? Je pose la question.
On va se quitter là. C'est vraiment ça. Partout, tout le temps, ce qu'on dit, c'est quoi, si t'es un homme blanc, évite de postuler sur partout où il y a en tout cas des deniers publics qui sont investis. Mais la beauté de la chose, Sophie, c'est que c'est toujours basé sur l'auto-identification. Fait que moi, là, mon chum Fred Bastien, si t'écoutes aujourd'hui, là, ben, ce que je te dis, là, c'est pas compliqué, c'est, tu sais, allume, là. À partir de maintenant, t'es une madame autochtone handicapée, puis postule, voilà. Mon gars. Tu sais, voilà. C'est comme ça que tu t'auto-identifies, puis ils ont pas le droit de le contester. Si on veut jouer au niaiseux, ben on va le faire des deux bords.
Voilà. Merci beaucoup, Guy.
Hey, bonne journée.
Mes récompenses Sonic, c'est le programme qui désire exaucer tous tes souhaits. C'est simple. Plus tu utilises ta carte du programme Mes récompenses Sonic durant les mois de mars et d'avril, meilleures sont tes chances de remporter 5 000 pour réaliser tes plus grandes folies. Visite l'une de nos stations Sonic et comble tes envies.
Professeur Duduche. Avec elle, pas de retenue.
On est de retour donc pour parler de musique, pour parler d'opéra. Alors habituellement, on associe Noël évidemment à des chansons de Noël plus traditionnelles, mais pourquoi pas Noël à l'opéra? On va parler tout ça avec Sam Champagne qui est ténor du trio pop opératique Lyrico qui va présenter donc le 4 décembre à la Place des Arts et le 11 décembre au Grand Théâtre de Québec ce spectacle du temps des fêtes. Bonjour Sam!
Bonjour.
Alors, vous avez en face de vous quelqu'un qui aime pas Noël et qui aime pas les chansons de Noël, mais je suis sûre que vous allez réussir à me faire aimer les chansons de Noël. Parlez-moi de pourquoi vous, ça vous tente de faire justement ce Noël à l'opéra.
Alors, Noël à l'opéra, c'est un grand concert symphonique et choral qui aura avec plus de 85 musiciens sur scène et ça mettra en vedette le trio pop opératique Lyrico. Notre première présentation, comme vous avez mentionné, le 4 décembre à la salle Wilfrid Pelletier de la Place des Arts et le 11 décembre en tournée, pour la première fois, on est très chanceux, à la salle Louis Fréchette du Grand Théâtre de Québec. On va chanter des chansons, tu sais, des préférées de Noël, des chansons célèbres d'opéra classique italien et ainsi que de la musique populaire de Céline Dion, Andrea Bocelli et de Sarah Brightman. Alors peut-être que ça va vous convaincre plus que
là,
Noël.
Mais c'est parce que quand vous dites Céline Dion, moi c'est ma petite Céline que j'aime beaucoup. Alors donc vous allez chanter, Sam, du Céline Dion?
Oui, les chansons que Céline Dion a faites avec Andrea Bocelli, entre autres.
D'accord. Alors, on va écouter un petit extrait de la bande-annonce, puis vous allez pouvoir nous commenter tout ça, Sam. Alors, c'est fascinant parce que même juste ce petit extrait-là, je vous vois la tête qui se fait aller. Donc, vous aimez vraiment le répertoire de Noël. Et on dit que cette année, il y a une petite touche italienne. Pourquoi?
Puisqu'on vient d'une formation classique. Tous nous trois, on a étudié le chant classique à l'Université McGill. Et à l'Université, on apprend beaucoup le répertoire italien d'opéra. Alors, on est très chanceux que le répertoire de Noël nous donne l'opportunité de chanter avec notre formation classique, notre technique classique. Et pourquoi pas aussi incorporer nos chansons préférées italiennes qu'on aime aussi d'opéra. Alors, c'est pour ça qu'on a Noël à l'opéra, Noël et opéra.
Je comprends. Alors, donc, ce trio, l'ensemble Lirico, il y a vous, Sam Champagne, il y a Yann Sabourin, il y a Marco Bocchicchio, donc on comprend aussi l'intérêt pour la musique italienne. Comment on fait quand on fait un spectacle de Noël et qu'on veut justement rejoindre à la fois un public qui aime le côté plus classique de l'opéra, puis en même temps aller glisser une petite toune de Monsieur Bocelli et de Céline Dion? Comment on réconcilie ces deux univers-là?
Ben, je pense que la chose qui est spéciale pour ce concert, c'est que c'est vraiment un concert grandiose de chœur et d'orchestre avec 85 musiciens sur scène. Et c'est trois jeunes. C'est ça qui est vraiment spécial.
Vous avez quel âge, Sam?
J'ai 23 ans.
Wow! Ouais.
Ouais, c'est ça. Et toutes mes autres collègues sont en bas de 30 ans. Alors, moi, je suis le plus jeune. Puis, c'est ça vraiment qui est spécial. On est trois jeunes qui aiment la musique classique. T'sais, d'habitude, on se fait dire que la musique classique est peut-être pas populaire avec le grand public, est un peu poche pour les jeunes. T'sais, nos collègues, nos amis, ils écoutent peut-être pas la musique classique, mais nous, on est preuve que la musique classique est pas morte. On est trois jeunes qui décident de faire ce répertoire-là parce qu'on trouve que ça apporte une vraie valeur à notre audience, puis pour nous-mêmes en le chantant.
Ouais. Alors donc, moi j'adore votre candeur et votre franchise. Donc il y a des amis à vous peut-être vont écouter de la musique plus contemporaine puis qui vous disent « Coudon Sam, t'es donc ben poche, c'est le mot que vous avez utilisé. Comment ça, un gars de 23 ans qui écoute de la musique qui a été composée il y a deux ou trois siècles? » Qu'est-ce que vous leur répondez quand ils vous disent « T'es donc ben poche? »
Mais c'est drôle parce que pour moi, j'écoute toute la musique. C'est ouais. ça, je suis amateur de toute la musique. J'écoute du pop, du rap, n'importe quoi qui me touche vraiment, la mélodie, c'est qu'est-ce qui me guide. Mais c'est ça mon but, c'est de rendre compte à mes amis, aux gens, qu'il ne devrait pas avoir de frontières entre la musique. Et pas nécessairement d'écouter à ce que la société nous dit qu'on doit aimer, mais vraiment d'être authentique à soi-même.
C'est bon, c'est bien
et
répondu.
Et de suivre notre propre cœur avec qu'est-ce qu'on aime dans nos choix de musique.
Et vous pourriez aussi dire à vos amis que très souvent, dans morceaux de musique d'aujourd'hui, dans la pop d'aujourd'hui, il y a de l'influence. Des fois, il va y avoir un petit peu de Chopin ou des fois, il va y avoir un peu de, je sais pas, d'autres compositeurs, du Beethoven ou des choses comme ça. Et il y a même des fois des reprises, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des morceaux, des pans de musique au complet qui sont incorporés, mais sauf que l'auditeur qui est pas averti ne le sait pas, mais quand on regarde, il y a en effet bel et bien de la musique classique qui les a influencés. Et de toute façon, on est tous juchés sur les épaules de ceux qui nous ont précédés. C'est-à-dire que toute musique qui se compose aujourd'hui est d'une façon ou d'une autre influencée. Il n'y aurait pas Madonna s'il n'y avait pas eu Chopin, Liszt et compagnie. On fait partie de ce bagage musical-là aussi.
C'est vrai. Alors, on peut même pas dire qu'on n'aime pas la musique classique parce que peut-être qu'on s'en rend même pas compte que des mélodies populaires qu'on aime ont été influencées, comme vous avez dit, par la musique classique. Alors, c'est ça. C'est la beauté qu'il n'y ait pas de frontières dans tous les aspects de notre vie. Je pense qu'on ne devrait pas être si rigide à écouter trop à qu'est-ce qu'on devrait faire ou pas faire. On devrait être authentique à soi-même.
D'accord. J'adore. Donc, point de vue rigidité, moi, je devrais arrêter de dire que j'aime pas la musique de Noël. Puis je devrais juste me laisser aller, lâcher prise.
Ben, c'est pas ça exactement. C'est pas ça exactement. Exactement, c'est il faut être authentique à soi-même. Alors, si t'aimes pas la musique de Noël, c'est correct. Il faut vraiment écouter à ton cœur, à qu'est-ce que tu aimes. Et peut-être qu'il y a un interprète, un chanteur de Noël qui peut vous convaincre avec leur qualité de voix. Peut-être qu'ils ont fait en sorte une performance qui vous a touché. Alors, il faut être ouvert, mais t'as pas besoin d'aimer tout non plus.
Mais je pense que vous, Sam, vous êtes tellement enthousiaste. Puis vraiment, vous avez vraiment l'air d'aimer ça, là. C'est pas phony baloney, c'est vraiment, c'est pour de vrai.
Non, pas du tout.
Donc, je pense que si vous me chantiez, mettons, à Brûle-Pourpoint, la Minuit chrétien, je risquerais d'aimer ça.
Ah oui.
Oui?
Ah oui, j'adore ça.
OK, allez-y.
Un menu chrétien?
Oui.
Oh.
Envoyez donc.
Minuit chrétien, c'est l'heure solennelle où l'homme Dieu descendit jusqu'à nous.
Wow! On applaudit, Sam! Et vous êtes applaudi même en régie par des gens qui ont votre âge. Hein. Ils ont tous 20 ans, là. J'ai tous l'âge d'être leur mère. Donc, ils vous applaudissent. Et moi, ce que j'adore,
merci,
c'est que vous avez pris la petite seconde que vous avez prise avant de chanter. C'est comme si vous alliez chercher quelque chose à l'intérieur, pas juste pour vous rappeler les paroles, mais comme aller chercher quelque chose qui serait peut-être l'esprit de Noël.
Bien, c'est drôle que vous dites, à cause, il y a deux parties à ça. Premièrement, c'est la respiration qui vient en premier.
Ah, d'accord.
Alors, on ne peut pas juste commencer à chanter comme « Ah! »
D'accord.
Il faut d'abord se collecter, t'sais, se mettre en soi-même, et on commence avec la respiration. Et dans la respiration, on a aussi, comme vous dites, l'esprit de Noël.
Qui l'intention.
Oui, l'intention dans la respiration. Alors, on ne peut pas juste se lancer à faire ça. On utilise notre cœur, on utilise nos sensibilités, notre corps, notre esprit, notre intention, et là, on chante. Alors, j'ai essayé de faire le mieux que je peux, mais c'est...
Mais non, mais c'est parce que normalement, moi, j'adore faire ça, lancer des défis aux gens quand ils viennent et leur demander de chanter à brûle pour point, et les chanteurs détestent ça parce qu'ils me disent tous, Sophie, t'as pas d'affaire à nous demander ça, faut qu'on se prépare, puis notre voix, puis faut qu'on protège notre voix. Mais je suis très contente que vous ayez accepté, ce qui montre que vous êtes... hein?
Ah, c'est le fun. J'ai une répétition hier soir, puis je suis vraiment, tu sais, dans ce répertoire-là, ça fait partie de moi, puis ça me donne la pratique, hein, pour ma mémorisation pour le concert.
Hey, vous avez fait camp. Ça, vous êtes tapé ici sur
la
poitrine.
Ah non, pas comme Céline!
Non, mais comme Céline!
Comme
oui,
Céline.
Oui, vous l'avez fait comme Céline! Je suis témoin, vous l'avez fait comme Céline. My heart will go on. Merci beaucoup, Sam Champagne, ça a été vraiment un plaisir. Je suis sûre que les gens vont adorer passer leur soirée. Donc, je rappelle, vous êtes le 4 décembre à la Place des Arts, le 11 décembre au Grand Théâtre de Québec avec vos collègues de l'ensemble Lyrico pour présenter Noël à l'Opéra. Et c'est possible qu'il y ait un petit Grinch de Noël qui soit dans la salle parce que elle s'est laissée convaincre. C'est possible. Je fais pas de promesses, mais c'est possible. Merci beaucoup, Sam Champagne.
Merci à vous.
Merci à Marianne Bessette qui vous a applaudi tout à l'heure. Marianne qui est avec nous à la recherche. Merci aussi à Charlie Marchand qui vous a aussi applaudi, qui est à la réalisation, à la mise en onde. Merci beaucoup et à très bientôt.
Cube Radio.